si loin, si proche, découverte. Le magazine des voyages.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Mesdames, messieurs, bienvenue à l'aéroport de Fagel Largo.
Céline Develay-Mazurel, Laura Larry, Raphaël Constant.
Cabin crew, descend the slide.
Bonjour.
Bon arrivé.
Bonjour.
Bon arrivé à Fagel Largo.
Merci. Ici, c'est le ministre du Tourisme qui veut venir vous accueillir. Parce que c'est le premier touriste qui descend ici.
On est les premiers touristes là.
Ouais, vous êtes les premiers touristes qui viennent ici à Faya. Voilà.
Donc là, c'est Maurice Freund qui va parler.
Ouais.
C'est un début. C'est un début, mais ça a été très dur quand même. Mais bon, on verra la suite. Enfin, le pays est super accueillant. Tout le monde fait ce qu'il peut pour que ça marche. Et après, tout est compliqué, quoi. Notamment notre cher gouvernement français. Refus de carburant, obligé de faire le tour de l'Afrique pour arriver, voilà. On est un peu partout, c'est quoi cet avion voilà.
Bonjour. À si loin, si proche, on a souvent pris un ticket pour les aéroplanes de Maurice Freund, voyagiste militant. Des avions pas comme les autres, qui atterrissent parfois au beau milieu du Sahara et au pied desquels, sur le tarmac, nous attendent ministres et curieux qui, pour la première fois, voient débarquer des touristes. Des avions aussi dont le seul vol est une épopée, un combat. La preuve, ce vol-là, qui m'a vu débarquer le 22 février 2012 avec moins d'une centaine d'autres passagers, c'était à Faya Largeau, au nord du Tchad, sur une piste militaire perdue dans le désert tchadien, en bordure d'un oasis à 800 km de la capitale N'Djamena. Il nous aura fallu 10 heures pour arriver là en avion. Deux escales depuis Marseille, à Constantine, en Algérie d'abord, puis à Abéché, au Tchad. Là, on débarque 80 passagers pour alléger l'avion parce que, comme l'a dit Maurice Freund, le carburant manque et l'armée française, seule dépositaire du carburant dans ces zones enclavées, a refusé d'en délivrer. Mais Maurice Freund, fondateur du Point Mulhouse, puis président de la coopérative Point Afrique, en a vu d'autres. Pendant 50 ans, il aura défendu, inventé même, les vols charters à prix cassé depuis la France, en particulier vers l'Afrique. Notre homme a donc l'habitude des bras de fer, sa vie en témoigne. Une vie folle et trépidante se passait entre les Touaregs et les aéroports du monde entier, de l'Ardèche, où il vit désormais à l'Afrique, sa deuxième maison, au plus près donc des dirigeants africains, des altermondialistes ou des gros bonnets de l'aérien. Une vie aussi d'idéaux et d'engagement pour un tourisme différent et solidaire qu'on avait envie de vous raconter depuis longtemps. Hommage donc, sur deux semaines, à un grand homme du voyage qui aura révolutionné le ciel. Et les échanges, début de l'histoire, les deux pieds au sol, là où en 1943 Maurice est né, en Alsace. Début de l'histoire donc, Maurice Freund à 21 ans.
Ça a commencé par une bande de copains à l'université de Strasbourg. Et dont le départ a été la construction d'un chalet dans les Vosges, avec le slogan « Un chalet pour les jeunes et par les jeunes ». Donc c'est sous la forme de chantier de jeunes durant 7 ans, où on va construire un chalet qui est quand même de grande taille, qui représente un peu plus d'un million d'euros, donc c'est une maison quand même assez importante, et on va mettre 7 ans pour la construire. C'était le premier objectif. Après, il y a eu très vite se greffer, ce qui va devenir tout à fait l'histoire du Point Mulhouse, le voyage. Alors la première destination était aux Indes, parce que d'abord ça se trouvait dans l'air du temps, c'est les routes de Katmandou, c'est toute cette période-là, c'est peace and love. Mais les premiers voyages ne sont pas faits dans le sens d'une découverte touristique, mais celle effectivement d'y faire des chantiers de jeunes et donc de venir dans un esprit très judéo-chrétien, d'aller aider nos pauvres petits Indiens. Mais le prix était tellement attractif que le Point Mulhouse va donc devenir, entre guillemets, un tour opérateur. Parce que très vite, les premiers charters qui se font en Inde, c'est le Point Mulhouse qui va les faire en faisant des vols directs sur Bombay. Il faut bien se replacer dans la période 1970, dans laquelle le voyage était quasiment inaccessible. La passion pour découvrir le monde était primordiale. Or, les prix et les monopoles existants des compagnies régulières étaient extrêmement importants, et donc quasiment inaccessible. Mais l'objectif n'était pas de casser les monopoles, l'objectif était de rendre le voyage accessible à tout le monde. Donc il fallait pour ce faire se battre pour qu'effectivement les prix permettent aux gens de voyager. L'obsession était là. Donc c'est effectivement quelque chose qui était totalement révolutionnaire.
Maurice était à fond dans le Point Mulhouse. C'était quelqu'un qui était capable de parler pendant des heures de voyage. D'ailleurs, il était déjà allé en Inde, il était très... c'était très attrayant. Quand on écoutait Maurice, on était pris. Et puis, alors, à cette époque-là, les locaux du Point, en fait, c'était l'appartement de Maurice. C'est-à-dire qu'il avait deux pièces, trois pièces cuisine pour lui, et il y avait deux pièces pour le point, mais comme c'était le même appartement, je veux dire que tout était mêlé, et c'était des fois un petit peu difficile quand même pour lui, je pense.
En 1964, l'association du Point Mulhouse est donc créée par Maurice et une bande de jeunes autour de ce chalet du Markstein entre esprit scout et musique yéyé. 1969, Michel Lecomte, alors jeune embauché à Peugeot Mulhouse, que l'on vient juste d'entendre, rencontre pour la première fois Maurice Freund, travailleur syndiqué là-bas. Très vite, Momo, comme on l'appelle, va l'emmener loin des ateliers automobiles et faire entrer Michel Lecomte dans la grande famille dite des pointistes. Direction Londres, déjà, un premier vol, le premier vol du Point Mulhouse, à 118 francs en 1969, du jamais vu, la jeunesse s'affole. Et puis, un an après, direction Delhi. Après avoir compris que trop souvent les avions reviennent à vide, sans voyageurs, Maurice Freund propose l'Inde donc à 960 francs. Avec l'aller par voie terrestre et le retour en avion. Et inversement, en gros, deux voyages pour le prix d'un seul vol.
À l'époque, Maurice avait un but, c'était recruter des gens qui s'inscrivent pour ce voyage. Il fallait qu'on fasse ce voyage. Donc moi je me suis inscrit, et il s'est trouvé que le gars qui devait accompagner le voyage partait au service militaire. Maurice m'a dit, bah écoute, c'est toi qui vas les amener, quoi. Et je suis parti comme ça, avec 22 personnes. On partait à Mulhouse, on descendait en train jusqu'à Istanbul. On a dû partir 21 juin 70. En Istanbul, on a dû rester une journée ou deux. Ensuite, on avait un train qui allait jusqu'à Erzurum, traverser toute la Turquie. Donc ça, c'était des choses qui étaient bien stables, bien fixées. Les billets étaient pris, si tu veux. Istanbul, moi, je connaissais bien. J'avais été en stop. Donc c'était un voyage avec des gens qui avaient envie de voyager, mais qui ne voulaient pas faire la route tout seul. C'était surtout ça, les gens qui avaient. Donc on arrivait dans une ville, on bloquait, on arrêtait donc à la gare de bus ou la gare des trains, tout le monde restait là, et puis je partais avec un des gars, et on trouvait un petit hôtel, et tout le monde allait à cet hôtel. Je veux dire que l'Afghanistan, les foundouks qu'on trouvait, les hôtels, c'était souvent un tapis, c'est tout. Hein. On mangeait dans les petites gargotes, comme les gens du pays. C'était la route, hein. C'était l'époque hippie, c'était la route. Ouais. J'ai jamais eu la réponse à ça, mais personne ne parlait de politique. Et pourtant, on sortait de 68. Les gens n'avaient pas envie de parler de politique. Peut-être qu'ils ne voulaient pas s'engueuler, hein, c'est... probablement. Donc on parlait surtout de voyage.
J'aime les fleurs.
François Guillard, je suis né à Garoua, au Nord Cameroun. À 10 ans, j'avais déménagé, allez, 10 fois, on va dire, sur 4 continents. J'ai rencontré le point après la route des Indes, parce que quelqu'un m'avait dit qu'il cherchait quelqu'un pour aller à New Delhi, pour s'occuper des affaires du point. Donc j'ai rencontré Maurice la première fois, j'étais banquier à l'époque, hein. J'ai été magasinier, clochard, hippie, drogué, banquier, et oui. Et après j'ai travaillé pour Le Point, donc. Et l'origine du Point Mulhouse, c'est une passion commune pour les voyages, avec un certain état d'esprit qui permettait aux gens de partager aussi une certaine, pas idéologie surtout pas, mais un certain sentiment par rapport au monde, un certain sentiment par rapport aux échanges culturels. Je crois que c'était surtout ça. C'était parce que bah, dans les années 70, il ne passait pas tant de choses que ça. C'était pas des consommateurs, des contre-consommateurs. Il y avait plus un esprit mai 68, ça n'a pas marché. On va réussir à faire marcher cette histoire-là, cette utopie. Il y avait un côté utopiste. Un peu politique pour certains. Et puis ce côté, alors... Ah, c'était tout le monde couchait avec tout le monde, plus ou moins. Voilà, il y a eu ça aussi. Ça n'arrive pas qu'aux autres.
Et pendant que certains s'envoient en l'air, d'autres bien moins idéalistes se le partagent. À l'époque, au début des années 70, en France, le ciel se répartit en gros entre deux acteurs, la compagnie française publique Air France et celle d'UTA, soit Union des Transports Aériens, autorisée depuis 1965 à exercer le même service public aérien qu'Air France. Curieux monopole ou duopole plutôt que viennent bousculer Maurice Freund, mais aussi Jacques Maillot de Nouvelles Frontières dont on va vous reparler. Des trublions qui demandent sans cesse des droits de trafic pour n'essuyer, en tout cas côté français, que des refus. Alors pour faire décoller ses avions, l'ingénieux Momo a encore trouvé une bonne astuce.
Air France, qui était la compagnie nationale, était extrêmement hégémoniste. Vous ne pouviez strictement rien faire au départ de France. Et l'aéroport de Balmulhouse est un aéroport binational. Il est construit sur un terrain français, mais il est financé par les Suisses. Donc l'autorisation pour décoller de Balmulhouse était obtenue soit par l'aviation civile française à Paris, soit par l'aviation civile à Berne, en Suisse. Bien sûr, on ne demandait pas l'autorisation côté français, parce qu'on connaissait automatiquement la réponse qui était un refus. Donc c'est effectivement notre situation géographique particulière qui a permis au point Mulhouse effectivement de lancer ses premiers vols hebdomadaires de la France jusqu'au Pérou. Parce qu'il faut bien reprendre également dans toute l'historique de l'évolution du tourisme par lui-même, les années 68-72, c'était l'Inde, la route des Indes, le chemin de Katmandou, Peace and Love. Et à partir de 1973, cette Amérique du Sud est devenue la destination par excellence. Il y a eu Allende au Chili, tout le monde habillé en poncho, on écoutait la musique andine. Un tel point qu'en 1977, le point Mulhouse avait transporté 19 600 personnes sur Lima au Pérou, alors qu'Air France n'en transportait que 11 200. Donc point Mulhouse en devient effectivement un élément extrêmement important et on gagne mais énormément d'argent. Un tel point que fin 1977, nous avons quelques 6,5 millions de dollars de réserves de fonds propres. Parce que bien sûr, le principe du point Mulhouse, association loi 1901, donc chaque fois qu'il y avait un excédent, il restait acquis au niveau de l'association. Ce qui nous a permis au fur et à mesure de prendre de plus en plus de risques dans notre aventure.
Si loin, si proche, sur RFI.
En 70, il y a eu à peu près 250 personnes qui ont voyagé avec le point. C'était 250 membres, en fait. C'est des gens qui venaient aux permanences, on les connaissait, on discutait, on préparait les voyages. C'était pas comme maintenant où tu t'inscris sur Internet et puis basta, quoi, tu découvres les gens. Là, tout le monde se connaissait la plupart du temps. En 71, on est passé, je crois, vers 700, 750. 72, ça a dû doubler encore. 73, c'était carrément, je crois, 2500. On a essayé de garder des circuits quand même un peu à taille humaine. On récupérait énormément de bénévoles avec ça. En 73, par exemple, un circuit Kenya, ça coûtait, je crois, 1650 francs. Et le type qui allait au Kenya avec Jet Tour, il devait payer 3 500 pour l'avion et l'hôtel, tandis que nous, on avait un circuit en plus hors classique, je dirais. On faisait le nord que personne ne faisait, on faisait le lac Rudolf, il y avait des perches du Nil, des crocodiles, personne n'y allait. Et ensuite, on terminait avec quelques jours à Mombasa, où on avait loué une maison. On avait une grande maison, et d'ailleurs c'était mon épouse, là, Eliane, qui s'occupait. Toutes les semaines, on avait un groupe qui restait 3-4 jours à la maison. Et c'est ce côté-là, c'était super sympa. Donc quand tu fais des choses comme ça, tu discutes avec les gens et qui te disent « Mais alors tu touches combien ?» Ben, dis non, t'es pas payé, puisque tout était... Moi, je dirais je touchais rien à l'époque, rien du tout. Et bon... Ils disent, mais attends, c'est pas possible. Et puis quand tu expliques un peu l'histoire, bah, qu'est-ce qu'ils font quand ils reviennent chez eux? Ils font du bénévolat, hein, souvent. Hein. Et ça a donné la naissance de tout ce qu'on a appelé les points contact, les gens qui venaient, qui tenaient les permanences bénévolement, et tout ça. C'était le développement du point.
Alors, c'est ça. Notre publicité efficace porte ses fruits, nombreuses adhésions. Direction Générale a décidé de faire un essai immédiatement. Avec premier groupe, ici arrivant le 15 de ce mois, mais on est combien? Il serait souhaitable que Bernard revienne Paris pour prendre groupe en charge.
Donc je suis Raymond Dominiac. J'étais une bénévole du Point Mulhouse depuis 1972, jusqu'à la fin. Donc j'ai découvert le Point Mulhouse en faisant un voyage au Pérou. Et au retour, je suis allée voir l'association, vu que j'étais enseignante à Mulhouse. Jeune enseignante, c'était mon premier poste. J'arrivais du sud-ouest, donc c'est quelque... j'avais besoin de retrouver aussi une famille, des amis. Et je suis allée au Marshall et du Marstein, où était Maurice Freund. Il m'a expliqué tout ce qui s'était passé depuis le début du Point Mulhouse. J'ai adhéré, bien sûr, à tout ce qu'il faisait, et je me suis proposée pour faire du bénévolat. Donc tous les jours, je faisais du bénévolat. Après mes cours, je répondais au téléphone, je faisais le courrier. Enfin, et quand on recevait les brochures, alors il y avait des soirées enveloppes, parce qu'il fallait faire les adresses, timbrer, aller à la poste, etc., etc. Ça faisait des soirées extraordinaires, ça, on y passait du temps. Tout le monde donnait son temps sans rechigner, mais dans la bonne ambiance.
Les bénévoles, c'est quand même l'essence du Point Mulhouse, c'est quand même le noyau du Point Mulhouse, et qui c'était leur boulot aussi, c'était leur passion et leur boulot. Alors, il y avait d'une part le réseau du Point Mulhouse. Le réseau du Point Mulhouse, c'était 50 points de vente en France, dont 5 qui étaient, on va dire, permanents, c'est-à-dire ouverts au public comme une agence de voyage, et tout le reste, c'était chez des gens. Hein. Mon frère Jean était à Évian-les-Bains, il était à l'INRA à Évian-les-Bains, enfin Tonneau et à Évian, il était une fois par semaine, de 17h à 21h, chez lui, on pouvait venir s'inscrire sur les voyages du Point. C'était à la fois génial, dans le sens où ça a permis beaucoup de rencontres entre les gens. Et c'était pas une agence de voyage traditionnelle, c'était... Il y a une confiance, une chose extraordinaire à ce niveau-là. C'était également un réseau de vente parallèle, marginal, un réseau de vente, on va dire, pirate. D'ailleurs, on était très mal considérés par le SNAV, le réseau des agents de voyage, etc. Pour eux, on usurpait le métier d'agent de voyage. On avait une licence qui était, il faut pas oublier une chose, le Point Mulhouse, c'est un Mulhouse, c'est en Alsace, et l'Alsace a des droits particuliers, entre autres sur l'agence de voyage, la licence était accordée d'une manière différente que sur d'autres endroits.
Toujours Maurice expliquait ce qu'on voulait faire, qu'il avait besoin de tout le monde pour y arriver et qu'on ne pourrait faire les choses que si tout le monde s'inscrivait, voulait bien participer. Choisir le Point Mulhouse, c'est prendre un risque. Voilà le titre de cette brochure d'été 81. Pointiste, en venant au Point, vous acceptez librement de devenir membre d'une association sans but lucratif, qui se bat et qui ne compte plus les ennemis. Heureusement, les amis sont encore plus nombreux. Nous sommes taxés d'utopistes, de pirates. Alors méfiez-vous, ne venez pas chez nous parce que nous sommes les moins chers. On a mieux à défendre. Voilà, le ton est donné. Et sur chaque brochure, c'est comme ça. Donc après, on expose les diverses destinations. Et beaucoup ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça continue. Des gens vraiment tout à fait normaux, avec des salaires pas très élevés. Et tout le monde pouvait aller en Afrique, au Yémen. On a fait des choses extraordinaires. Moi, j'aurais jamais pu faire ça sans le Point Mulhouse. Parce qu'on allait 3 fois par an, à peu près tous, dans le désert, au Sahara. On allait en Inde, on allait partout dans le monde. C'est extraordinaire. Moi, j'ai traversé depuis Mulhouse jusqu'au Yémen en voiture. Bon, quand on est passé entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, on a entendu des coups de fusil, des choses comme ça. Mais on ne s'est pas tracassé du tout. C'est alors que maintenant, je ne le ferai plus, je ne voudrais pas que mes enfants partent là-bas, quoi. Tandis que nous, je sais que mes parents, ils étaient tranquilles aussi, quoi. Ils avaient vu que j'avais trouvé une deuxième famille. Et ils trouvaient que c'était normal que je parte comme ça. Et on découvrait les populations, on pouvait en parler, on pouvait dire aux gens de s'inscrire aussi pour l'année d'après. Donc c'était un besoin de faire partager ce qu'on découvrait. Et ça fonctionnait bien, ça fonctionnait très très bien.
Car au-delà de voyager pas cher, le Point Mulhouse, association atypique et fraternelle, proposait surtout de voyager autrement, à la rencontre des populations locales, loin des sentiers touristiques confortables et sans relief. L'aventure, aussi vraie et aussi dingue qu'un Mulhousier voiture, c'est ce qui nous attend encore dans la deuxième partie de Si loin si proche. On parlera des hauts et des bas du Point Mulhouse, un peu d'Afrique et surtout beaucoup de voyages. A tout de suite. Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Si loin, si proche. Découverte. Le magazine des voyages.
Donc vous voyez, par exemple, ici, c'est les programmes de voyage dans le Sahara. Donc chaque saison, il fallait faire une brochure pour informer les gens sur les voyages qu'on allait faire au point à Mulhouse. Donc il y avait Saint-Louis, Nouakchott, Tatar, toute la Mauritanie. De la Mauritanie, on passe au Mali, Bamako, Mopti, Tombouctou, Gao, et puis on passe au Niger, Zinder, Bilma, Tamanrasset, et on remontait jusqu'à Alger. Et, vous voyez, là, on pouvait y aller. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de touristes, donc on était, je pense, dans les premiers à circuler. Et on a été partout accueillis de façon extraordinaire, aussi bien pour des mariages que sous la tente, tout simplement, pour partager le thé, les dattes. Et ça, c'était tout à fait authentique, quoi. C'est des souvenirs incroyables, quoi, ça.
À l'heure où les zones sahéliennes et sahariennes deviennent des terres de voyage défendues, la lecture par Raymond Dominiac, bénévole du Point Mulhouse, qu'on vient d'entendre, de ses brochures du voyagiste historique vers l'Afrique, qu'est le Point Mulhouse, font un peu soupirer, mais surtout rêver. Elles ont d'ailleurs fait rêver de nombreux voyageurs, comme Raymond et tant d'autres, attirés par ce voyagiste différent qui cherchait à faire rimer tourisme avec solidarité et développement local. On continue toujours de vous raconter l'histoire du Point Mulhouse et de son fondateur, Maurice Freund, un patron gauchiste, anticonformiste, comme on en voit peu aujourd'hui. Un fou volant, un Robin des airs, comme certains l'appellent, qui en 20 ans aura su faire de sa petite association alsacienne, le Point Mulhouse donc, la première compagnie low-cost française. Imaginez un peu, en 1987, près de 800 000 personnes avaient voyagé dans l'année avec le Point. Mais revenons là où nous avions laissé le Point Mulhouse au début des années 70, entre le Yémen et le Pérou. À l'époque, l'Amérique latine devient la destination du Point, celle qui ramène le plus de devises, mais aussi des ponchos dans les soutes, et oui, c'était un juteux business à l'époque pour le Point, ou bien à bord aussi des centaines de réfugiés comme après le coup d'état de Pinochet au Chili en 1973. Car Maurice Freund et ses avions n'auront de cesse de s'inviter dans la grande histoire, comme à la table des puissants d'ailleurs. Or en Afrique, comme en France, on l'a vu, les monopoles ont la cuirasse solide. Alors aux Antilles, vous imaginez bien, Jean-Yves Dupeux est l'ancien avocat du Point Mulhouse.
Maurice Freund, par une espèce d'affection, était entré en relation avec... des Antillais qui avaient mis sur pied une compagnie aérienne, ce qui était quelque chose à l'époque, c'était fin des années 70, c'était quelque chose de très novateur parce que les Antilles n'étaient desservies que par Air France. Il y avait une très forte demande de la part des flux de passagers qui allaient très souvent aux Antilles. Il y a beaucoup d'Antillais en France et donc la demande était très forte. Mais on passait toujours par Air France qui apparaissait comme la compagnie monopolistique sur les Antilles. Et donc l'idée de Maurice Freund et de ses associés antillais, ça a été de créer une compagnie charter qui était la première et qui venait marcher sur les terres d'Air France.
Quand je pense qu'il fallait à M. Jean-Jacques Rousseau pour aller jusqu'à Calais ou visiter Fontainebleau, le même temps qu'il me faut de Paris à Fort-de-France, et me retrouver bien au chaud. Air France, je dis chapeau.
Pour nous, c'est une nouvelle aventure qui commence, puisque cette première compagnie aérienne, le Point Mulhouse, doit la financer totalement, à 100%. Qu'achète un avion, un Boeing 1607 de la compagnie Pan Am, à 6,5 millions de dollars. Et le Point Mulhouse a cette réserve, donc il paye cash un avion à 6,5 millions de dollars. Et commence l'aventure, effectivement, d'une entreprise qui s'appelait SATT, Société Antillaise de Transport Touristique. Avec une particularité tout à fait particulière, c'est une compagnie qui avait le droit de desservir le monde entier, à l'exception de la France. C'est quand même terrifiant, une compagnie aérienne française qui n'a pas le droit d'aller en France. Bon, c'est comme ça. Et c'est ainsi que se sont lancés les premiers vols au départ de Bruxelles, au départ de Balmulhouse, sur Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Et déjà à l'époque, dans les années 1975, nos hommes politiques se rendant aux Antilles ont permis à la demande des Antillais cette création de cette première compagnie. Donc c'est un acte politique tout à fait particulier qui a déplu totalement à tout ce que nous appelons, nous, l'aérotechnocratie, c'est-à-dire Air France, l'aviation civile, tout ce petit monde confiné qui, effectivement, développait le monopole, les côtés hégémoniques. Donc c'était, effectivement, un espèce de coup de tonnerre dans le ciel français, effectivement, cette création de compagnie. Le premier vol va se faire le 5 juillet 1978 avec ce fameux Boeing 707. Et très vite, on constate bien sûr qu'on ne peut pas faire tourner une compagnie avec un seul avion. Donc on va s'endetter et acheter un deuxième Boeing 707. Et donc l'aventure continue un petit peu comme ça. Mais très vite, l'aventure entre les Antilles et puis nous-mêmes, la gestion là, ou les notions de gestion n'étaient pas tout à fait de la même lecture. Les Antilles, c'était presque pour une opération politique, ils voulaient faire des vols Pointe-à-Pitre, Dakar, Abidjan, les retours, voyage retour aux sources, mais il n'y avait pas assez de public pour ça, et très vite, la SNTT va connaître des difficultés, et donc va être obligé de déposer son bilan. Là-dessus, comme nous nous étions engagés totalement sur les deux Boeing 707, on avait donc quelques 13 millions de dollars d'engagement financier. C'est comme ça que va se créer, en 1980, la compagnie Pointer, qui va récupérer les deux avions, les deux Boeing 707.
Pointer, c'est donc le nouveau défi que se lance Maurice Freund en septembre 1980. À la même époque, un autre acteur de la filière revendique lui aussi le droit au voyage pour tous. Une figure venue du scoutisme qui avait bien compris son époque, beatnik ou nomade, pour faire quand même rapidement le choix du grand capital. Jacques Maillot, c'est son nom, est le fondateur de Nouvelles Frontières, agence française pionnière de la démocratisation du voyage. En 1982, Jacques Maillot va d'ailleurs lui aussi se lancer vers les Antilles avec plus de succès quand même que Maurice Freund, avant de créer ses fameuses chaînes hôtelières et sa compagnie aérienne Corsair. Et Jacques Maillot, forcément, a bien connu le Point Mulhouse.
Soyons clairs, d'abord, nous étions des concurrents, pas sur l'ensemble de nos activités, puisque quand même, le Point était resté une association, et moi, en 1973, je suis rentré dans le secteur marchand. Donc, sur le fond, Freund et moi, on est vraiment dans deux styles complètement différents, des gens de gauche, et qu'on s'est battu pour que les consommateurs, qu'ils soient adhérents ou clients, peu importe, pour moi c'est la même chose, aient vraiment les meilleurs prix et qu'on puisse démocratiser le voyage et puis de permettre, il faut voir qu'il y a quand même des pays, par exemple, comme le Bénin, comme le Togo, comme le Burkina Faso, où alors là vraiment le Point et Pointer ont été extrêmement actifs pour que les monopoles ou que les duopoles explosent. Ça a commencé un petit peu à s'améliorer vraiment en 86. Il faut reconnaître que là-dessus, il y a une politique de libéralisation avec Doufiac qui était ministre des Transports. Et je ne dis pas ça parce que vous êtes journaliste. Ce qui m'a semblé important, c'était de se présenter comme des victimes. Et en France, on adore les victimes. Et moi, je dois dire que là-dessus, je me rappelle, j'ai eu une aide mais colossale de la presse. Lorsque les médias n'arrêtaient pas de les harceler et de les critiquer, ben finalement, ils reculaient. Et en tout cas, le ministre. Hein, parce que finalement, il faut reconnaître que ce n'est pas les fonctionnaires qu'il faut attaquer. Les fonctionnaires, ils exécutaient la politique du ministre des Transports. Ben, je prends une anecdote. Giscard d'Estaing, qui se présentait comme quelqu'un de libéral en économie. À l'époque, moi, en 1974, pour aller au Sénégal, on partait même pas de Paris. Je regardais toujours les listes de passagers. Et un jour, il y avait le neveu de Senghor. Et du coup, le neveu de Senghor me dit « Mais moi, j'en ai rien à foutre. Je veux monter l'avion au départ de Paris. » J'ai dit « Mais moi, ça m'arrange. » Du coup, j'appelle le directeur de l'aviation civile. « Écoutez, j'ai le neveu du président. »« Ah bon, vous êtes le neveu du président Senghor ? Il veut partir de Paris. Est-ce qu'il peut monter dans l'avion ?» Ils me disent « Oui. » Mais je lui dis « Je vais faire monter tous les clients. Je ne peux pas faire une discrimination, etc. » Alors, j'ai reçu une autorisation, alors que le vol avait déjà décollé à titre exceptionnel. Et du coup, il faisait les choses bien, ils m'ont autorisé à faire 4 vols au départ de Paris. À partir de là, je suis parti de Paris. Je remercie tous les jours le neveu du président Senghor.
Point Mulhouse, Pointer et tous ces outils n'ont jamais eu de stratégie. Ils ont eu une finalité, une raison d'être, permettre le voyage au plus grand nombre. Et à partir de là, tout était autorisé pour permettre ce voyage moins cher. Pourquoi cet acharnement à empêcher les gens de voyager? Pourquoi ne pas rendre ceci accessible? Et donc là-dessus, je me suis trouvé par hasard dans cette aventure. Moi, je n'ai pas de formation pour être gérant d'une compagnie aérienne, gérant d'un tour opérateur, d'une agence de voyage. Et d'ailleurs, quand on me dit quel est le métier que tu fais, je suis toujours extrêmement gêné de dire je suis agent de voyage. L'agence de voyage, le tour opérateur, la compagnie aérienne ne sont que des outils pour permettre l'échange, pour permettre effectivement la découverte du monde.
Les dirigeants des années 70-80, et là-dessus, c'est pas une absence d'humilité, on a été un peu des pionniers. Actuellement, si on me demandait, au cours des 5 dernières années, en Europe, quels sont les tours opérateurs qui ont fait des coups spectaculaires, qui ont changé les voyages, les vacances des Européens, on va avoir du mal à nous répondre. Et je pense qu'il faut... on n'a pas assez de Maurice Frogne, j'hésite pas à le dire, là-dessus des gens qui font des coups.
On avait l'impression que ce type était capable de faire bouger des montagnes. Et d'ailleurs, il a un peu fait bouger des montagnes, parce qu'il faut bien reconnaître que toute la déréglementation, toutes les possibilités de vol sur des destinations où on ne pouvait pas aller, parce que quand on était jeune et pas très argenté, c'était beaucoup trop cher, tout cela, c'est lui qui l'a fait. Et toute cette espèce d'élan qui a été donné au voyage pas cher, au charter, finalement, l'introduction en France de ce qu'on appelait aux États-Unis des charters, des vols charters, c'est lui. L'organisation dans des pays pauvres de rencontres avec les populations sans que ce soit un tourisme bête et destructeur, c'est lui aussi. Et après, il a été énormément copié. Mais à l'origine, c'est vraiment la personnalité de Maurice Frogne qui a fait ça.
Maurice Frogne, c'est un personnage. Pour moi, c'est mon grand frère. Avec beaucoup de qualités, beaucoup de défauts. C'est quelqu'un qui ne prend pas de repos, qui n'a pas de besoin de confort, de maison, de propriété. De... Nous, on l'a connu bon, à une époque où il pouvait vivre jour et nuit avec les mêmes vêtements. Quoi. Il avait rien, quoi, il avait rien. Après, petit à petit, on l'a vu évoluer, quoi, parce qu'on lui prêtait une cravate, on lui prêtait une chemise pour aller voir, on va voir l'ambassadeur, mon mari lui passait une cravate, une chemise. C'est des défauts de gens pleins de folie et qui sont un peu désordonnés en même temps, mais il faut bien. Quelquefois, on se disait, oui, encore une idée à Freud, mais la plupart ont été réalisées quand même, hein, je pense.
C'était Michael Kiwanuka, jeune prodige de la soul britannique et Tell Me a Tale sur RFI. Un conte, tiens, c'est un peu ce à quoi ressemble l'histoire du voyagiste français Point Mulhouse et son fondateur Maurice Frogne qu'on vous raconte cette semaine. Un conte, une épopée même, où l'on croise des boat people, des hommes politiques corrompus, des humanitaires, des agroécologistes et des rebelles touaregs. Le tout sur fond de négociations permanentes pour faire poser des avions dans les endroits les plus éloignés du monde, à grand renfort de palabres, parfois de pots de vin, mais surtout de ténacité. 1983, Maurice Frogne, en plutôt bon terme à l'époque avec la gauche, récemment arrivée au pouvoir, se lance, avec sa compagnie Pointer, sur le marché réunionnais. L'île n'est alors desservie que par Air France. Et puis après, il y aura la Corse, un autre appendice de la France relié là aussi uniquement par la compagnie nationale. Les relations avec Air France et la Direction Générale de l'Aviation Civile se tendent. Jean-Yves Dupeux, avocat du Point Mulhouse.
Ce qui est particulier, c'est que le Point Mulhouse et sa compagnie aérienne étaient devenus presque le premier tour opérateur français. Ils jouaient jeu égal avec le Club Méditerranée, pourtant très différent, et également avec Nouvelles Frontières. Et ce qui était à l'origine une association d'étudiants un peu gauchistes et un peu échevelés, était devenu une très grande entreprise, et animée par une philosophie remarquable, cette philosophie de la rencontre entre les hommes. Et c'est peut-être ce qui a été à l'origine de la chute. D'abord pour une raison structurelle, c'est que ça devenait quand même très difficile à gouverner et organiser. Et ensuite parce que ça a créé un certain nombre de jalousies. Personne n'aimait trop cet empêcheur de tourner en rond. Il avait énormément développé un tourisme pas cher. Ça ennuyait ceux qui faisaient du tourisme cher. Il avait développé des compagnies aériennes sur des lignes où jamais jusque-là il n'y avait eu de concurrence. Ça ne plaisait pas du tout. Et ces jalousies se sont traduites par le fait qu'un jour on a abattu lorsqu'on a touché l'un des points faibles de la cuirasse, la compagnie aérienne.
Le journal Claude Guillaumin.
Pour la première fois en France, une compagnie aérienne est interdite de vol. Il s'agit de la compagnie de charter Point Air, filiale de l'association Le Point de Mulhouse, spécialisée dans le tourisme populaire et qui organise des vols de charter, notamment vers l'Afrique et la Réunion.
Lorsque les pouvoirs publics invoquent le fait qu'une compagnie aérienne met en péril la sécurité des passagers, c'est un prétexte extraordinaire. Ça veut dire qu'il suffit d'instiller cela pour que, premièrement, plus personne ne veuille voyager sur cette compagnie aérienne, et pour que, deuxièmement, les pouvoirs publics prennent la décision d'arrêter purement et simplement la compagnie aérienne. Vous savez, elle a été arrêtée par un téléx qui est arrivé sans le moindre avertissement préalable. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Et c'était la faille de la cuirasse, quoi.
Daniel Tenenbaum, le directeur général de l'aviation civile, a expliqué ce matin à Michel Polaco pourquoi il avait dû prendre cette grave décision.
Ce n'est pas une chose qui apparaît comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est un processus au cours duquel nous avons été conduits, après avoir mis en garde la compagnie à plusieurs reprises, à d'abord suspendre son agrément d'entretien, c'est-à-dire que nous considérions qu'il n'était plus susceptible d'entretenir correctement l'avion. Puis nous avons arrêté un avion pour des raisons de sécurité, c'est le Boeing 707, car il était vieux, il était usagé et il était mis en œuvre par des gens qui n'avaient pas la compétence nécessaire. Et tout récemment, donc hier, nous avons été conduits à arrêter totalement l'exploitation de l'ensemble de la compagnie, c'est-à-dire tous ses propres avions et tout autre avion. C'est-à-dire que nous avons constaté des tas de choses presque incroyables. Je peux donner quelques exemples au hasard, mais il y en a bien d'autres. Des masses importantes de l'ordre de 200 kilos qui sont dans des soutes et qui ne sont pas arrimées, c'est-à-dire que s'il y a un mouvement brutal, soit dû à une turbulence, soit à un arrêt de l'avion, elles peuvent crever le fuselage.
Début du mois de février, j'apprends à la télévision à 20h que la compagnie Point Air, en 1987, est arrêtée pour des raisons de sécurité avec moult explications de la part du directeur de son civil qui était au prime time de 20h. J'ai donc pris le premier avion pour aller de Ouagadougou sur Paris pour essayer de m'en expliquer de ce qui a pu se passer. Et à partir de là, effectivement, il y a eu un espèce de presse fantastique là-dessus, des articles partout sur les accidents d'avion, pas les nôtres, on n'en a jamais eu, un peu de partout, en disant effectivement, l'administration a eu raison d'arrêter ces avions qu'on qualifiait. Et c'est les propos du directeur de l'agence civile française en disant « Point Mulhouse a des avions qui sont des cercueils volants ». C'est fort. La sécurité au niveau du point, la sécurité, l'entretien des avions n'était pas assuré par nous-mêmes. D'ailleurs, c'était la compagnie nationale Air France et UTA qui faisait les plus grands travaux d'entretien chez nous. Donc là-dessus, on ne peut pas être accusé de ce côté-là. Après, vous savez, je pense qu'on peut toujours trouver effectivement la petite faille, l'histoire des pilotes qui ont dépassé leur temps de vol parce qu'on n'a pas reçu les dérogations souhaitées, effectivement, peut permettre, lorsqu'on amplifie totalement le phénomène, de nous faire passer pour des gens expliquant ainsi à la presse et à l'opinion publique le pourquoi de ces prix extrêmement bas étant liés effectivement à l'absence de sécurité. Et ça va effectivement être le début de la fin de l'aventure de Pointe-Mulhouse. Et donc le 1er avril, clin d'œil aux poissons, nous avons déposé notre bilan le 1er avril 1988.
Ce qui, moi, m'a beaucoup choqué, c'est que pour tenter de justifier l'arrêt de la compagnie, on a envoyé des inspecteurs qui étaient en réalité des commandants de bord d'Air France. Et j'ai trouvé qu'il y avait là un mélange des genres, un conflit d'intérêts qui était extraordinaire. Pourquoi ? Parce que quelques semaines avant cette inspection, Air France s'était mise en grève pour protester contre le fait que des droits de trafic avaient été accordés à la compagnie aérienne du Pointe-Mulhouse sur l'île de la Réunion. Autrement dit, c'est ceux-là même qui avaient fait grève pour protester contre l'existence même de cette compagnie aérienne, c'est ceux-là que l'on a délégué pour aller établir un rapport d'inspection sur un vol, d'ailleurs pas sur 36, hein, sur un vol, Réunion-Paris, je me souviens. C'était pas des accusations très graves au regard de la sécurité aérienne, mais c'était d'inorganisation. Et je nous vois, Maurice et moi, arrivant à Mulhouse, parce que tout ça se passait à Mulhouse. Et c'est tout juste si on se demandait si Maurice n'allait pas être arrêté par la police, parce qu'il y avait une telle hostilité, une telle animosité qui avait été créée par les pouvoirs publics administratifs, hein, que tout ne pouvait que mal être perçu, vous voyez. Tout était pipoté à l'avance. La justice n'était plus la justice. Ça, je ne crains pas de le dire, je l'ai déjà dit. On avait vraiment l'impression de se battre contre quelque chose qui, quoi qu'on fasse, quelle que soit la force avec laquelle on développait des arguments, on avait vraiment l'impression que tout était joué d'avance et que tout était perdu d'avance.
Tu te demandes si j'ai tiré 6 balles ou 5 seulement. Avec tout ce bordel, je t'avoue que je n'ai pas très bien compté non plus.
En aucun cas, je dis bien en aucun cas, ces avions représentaient un danger pour les passagers. Pour une bonne raison. C'est qu'on avait une équipe de pilotes au Pointe-Mulhouse qui était extraordinaire, qui étaient des anciens, souvent des anciens de l'armée de l'air, etc., qui étaient non pas des types qui étaient en train d'attendre sur les règles, mais qui disaient, bon, ben, c'est pas grave, de toute façon, oui, il y a une vague fuite là entre tel machin, mais c'est pas grave. Mais rappelons-nous les catastrophes aériennes de Air Afrique et de UTA. Nous, on n'a jamais eu de crash un avion, hein. Jamais. Il n'y a jamais eu de mort au Pointe-Mulhouse. Ah, ça, faut le rappeler aussi. Ce qui énervait l'État, c'était notre ambiguïté par rapport à Air Afrique, Air France, tout ça, machin. Notre discours de dénonciation permanente de l'escroquerie de ces compagnies aériennes et sur la possibilité également d'avoir des compagnies aériennes qui fonctionnent. C'est pas parce qu'on est commandant de bord qu'on doit gagner 15 fois le salaire du Pékin moyen. Hein, c'était ça aussi. Maurice avait obligé les pilotes à baisser leur salaire. Mais il y avait un truc qui était formidable. Les ambiances à bord du Pointe-Mulhouse, c'était des trucs incroyables. Quels que soient les passagers d'ailleurs, en garde des super souvenirs, mes passagers de Bangui, ils me disaient toujours « Ah, mais jamais on est monté dans les avions comme ça ». Tout le monde se parlait, aussi bien les natifs, donc les gens originaires des pays qu'on desservait, que les touristes. Il y avait réellement des échanges. J'irais même beaucoup plus loin. Moi, je me souviens de Java dans l'avion, où l'avion, il atterrissait. Je peux vous dire que 189 passagers, il y en avait au moins 100 qui avaient dépassé la dose d'alcool requise, machin, sans compter certaines époques où il y avait des grands épisodes fumettes à l'arrière de l'appareil, où ça sentait un peu la coffee shop, comme on dit. C'était génial. Ah, franchement, et surtout une chose, vous aviez des pilotes qui n'hésitaient pas à sortir de leur couloir aérien, à descendre un bas, pour dire, regardez ici l'oasis de Gardaïa, voilà, c'est ceci, c'est cela. Il y avait une réelle animation. Allons, citons des commandants, le commandant Tranchepin, Gravel, des types formidables, qui connaissaient les passagers, etc. Il se passait réellement. Et puis surtout, ces gens-là étaient devenus des accros du point, des fans de Momo. Hein. Je parle du noyau dur du début. Ensuite, justement, quand on a commencé à s'agrandir, on a commencé à avoir des commandants de bord qui sortaient du machin, qui voulaient pas, en dessous de tel salaire, il n'était pas question, et puis de tel
De telle heure à telle heure, on travaille, de telle heure à telle heure, on travaille pas, il y a ceci, il y a cela, machin. Je crois des conneries que le point fait, ça a été de s'étendre trop sur du marché aérien, sur les dom-toms particulièrement. Je crois que c'est des dom-toms, la Corse également, qui a foutu le feu aux poudres. Et puis je crois également une chose, c'est que le point ne pouvait pas finir autrement. Ça aurait été dommage. Ce serait devenu une machine comme une autre. Et je pense qu'il aurait duré. Il y a beaucoup de chances qu'on ne soit pas aujourd'hui en train d'en parler avec le même bonheur.
Et nous aussi, comme François Guilleur, c'est avec un grand bonheur qu'on va vous reparler la semaine prochaine de l'aventure aérienne, solidaire, écologique, mais surtout africaine, du Point Mulhouse, mais aussi de Point Afrique, la coopérative que va inventer ensuite Maurice Frun. L'Afrique, c'est en effet une grande histoire pour Maurice, là où il a pu réellement mettre en pratique ses rêves de désenclavement et de développement économique par le tourisme, que ce soit à Gao, au Mali, en passant par Attar, en Mauritanie, mais aussi Gorom-Gorom, au Burkina Faso. On va d'ailleurs croiser la semaine prochaine, la route de Thomas Sankara et Pierre Rabhi, mais on ne vous en dit pas plus. Un grand merci à la Sonothèque de RFI et à l'INA. Cette série d'émissions n'aurait jamais vu le jour sans la ténacité et la volonté de Ludovic Duneau, mon partenaire de radio et grand connaisseur de cette histoire. Sans aussi Raphaël Constant qui s'est plongé dans nos heures d'archives et a collecté de nouveaux entretiens. Sans Stéphanie Labadie et Pascal Mougenot qui ont elles aussi rencontré de nombreux acteurs du Point. Vous ne les avez pas entendus, mais elles étaient toutes là avec leurs questions affûtées. Sans parler enfin de Laure Allary, réalisatrice de l'émission. Merci à tous, merci à toutes. À la semaine prochaine. Salut à tous.